Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dès mercredi, le Père éternel, rien moins, nous invitera à descendre dans l'arène. Considérons cette invitation du Père éternel comme un honneur, mes frères. Il a jugé bon que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, son passé, ses fragilités qu'il connaît mieux que nous, il a jugé bon que nous puissions participer au grand tournoi du carême. Il nous estime dignes, et puisqu'on ne refuse pas l'honneur qu'un roi fait à ses sujets, a fortiori lorsqu'il s'agit du roi des rois, il n'est pas question de nous défausser. Méfions-nous cependant de commettre quelques erreurs dans lesquelles très souvent nous sombrons. Au cours des carèmes des années précédentes, nous en avons fait parfois l'expérience un peu amère. Soit galvanisés par la perspective du tournoi et le désir de vaincre, nous entrons en lice un peu hâtivement, sans avoir vraiment pris le temps de nous préparer. Plein d'énergie au départ, un peu présomptueux, faut bien le dire, nous tombons, nous nous essoufflons rapidement, nous nous décourageons. Soit au contraire, d'emblée, démoralisés par les éventuels coups que nous savons devoir recevoir au cours de ce carême, l'expérience en témoignant, nous laissons tout de suite tomber les armes, nous déclarons forfait avant même que d'avoir combattu. Alors, mes frères, que les paresseux, car il y en a également, je ne les ai pas cités, que les paresseux aillent au diable, se souvenant de ce que Dieu lui-même leur dit dans ses paroles terribles, « Je vomis les tièdes », il faudra donc combattre, mes frères, que les craintifs se rassurent, puisque le grand roi a déjà choisi son champion. Ce champion, ce n'est ni vous ni moi, ce champion, il l'a même oint, comme son nom l'indique, il s'appelle le Christ. Nous n'aurons qu'à nous ranger sous sa bannière et, puisqu'il a vaincu la mort, saint Paul nous l'enseigne, nous sommes plus que vainqueurs en nous embrigadant sous les bannières de ce héros. Et puis que les présomptueux se calment un peu, qu'ils apaisent leurs ardeurs parce que 40 jours c'est un peu long et il va falloir tenir. Quel que soit votre tempérament, quelles que soient vos dispositions, que vous vous reconnaissiez dans la catégorie des paresseux, des crâneurs ou des craintifs, il nous faut élaborer sommairement un plan de bataille, c'est-à-dire, en tout premier lieu, bien identifier le but de notre lutte. A-t-on jamais vu un général, un chef de guerre, entrer en guerre, lancer ses troupes dans une bataille sans savoir exactement pourquoi il se battait? Évidemment non, et saint Paul, qui est expert en combat spirituel, nous en donne la consigne. « Je cours, dit-il, moi, mais pas à l'aventure, c'est-à-dire pas au hasard. » Il dit cela parce qu'il sait que seul un but clairement identifié donne la motivation suffisante, galvanise suffisamment pour affronter les difficultés. « Je vais, nous dit ailleurs saint Paul, droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but. » S'il n'avait pas eu sans cesse devant les yeux ce but à atteindre, le but de sa mission, jamais, soyons-en certains, jamais il n'aurait eu le courage de vivre toutes les tribulations de sa vie apostolique qu'on nous a épargné la semaine dernière, c'était le dimanche de la sexagésime, sur lequel primait la fête de la présentation. Il y faisait allusion dans cet épître que nous n'avons pas lu cette année, il y faisait allusion à des naufrages, des voyages, des bastonnades, etc. Et tout cela, il n'a accepté de l'affronter la tête haute que parce que le but était clairement défini d'emblée. Après avoir défini le but, il nous faudra examiner les pièges auxquels nous nous exposons et les moyens d'en venir à bout. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, je n'envisagerai que le but. Je laisse au mercredi des cendres ce soin d'examiner les pièges auxquels nous nous exposons et les moyens que nous avons de nous en tirer. Nous pourrions avoir pour but, du moins les années passées, souvenez-vous, nous l'avons eu, ces buts qui ne sont pas très bons, nous pourrions avoir pour but soit de briller aux yeux des autres. Alors souvenez-vous des consignes du Seigneur à l'égard des pharisiens, de ceux qui se mettent au carrefour, qui se montrent jeûnant, qui se montrent faisant toutes sortes d'efforts ascétiques. Évidemment, il ne s'agit pas de cela comme but de carême. Briller aux yeux des autres rend totalement vain le combat de carême. Alors on pourrait se choisir pour but de s'épater soi-même. Ça ne fait jamais de mal de se prouver à soi-même qu'on est capable d'un peu d'ascèse, d'un peu d'aumône et d'un peu plus de prière que d'habitude. Mais là non plus, tel n'est pas le but. Le Seigneur Jésus, dès le début de sa vie publique, dans le Sermon sur la montagne, nous enseigne que quand nous jeûnons, lorsque nous prions et lorsque nous faisons l'aumône, il faut que nous-mêmes nous l'ignorions en quelque sorte. Et saint Paul de dire « je ne me juge pas moi-même », c'est-à-dire « il ne m'appartient pas de me contempler, de m'évaluer dans la cèse à laquelle j'accepte de prendre part ». Quel est donc ce but du carême? Le but ultime du carême, vous le savez bien, il est connu de tous. Jésus en parle très souvent, l'Apocalypse nous précise davantage de quoi il retourne. Il s'agit de prendre part au festin des noces de l'agneau, de prendre part à ses agapes en présence du grand roi. Mais ça, c'est pour la fin de notre existence, c'est pour la fin de notre course. Il nous faudra sans doute encore affronter quelques carêmes avant d'être en mesure d'atteindre ce but ultime. Pour l'heure, nous devons viser un but intermédiaire. Nous devons, à la fin de ces 40 jours, avoir purifié notre regard. Voilà où je veux en venir. Purifier notre regard. C'est dans l'Épître et l'Évangile d'aujourd'hui, je crois, le leitmotiv, que ce regard, ce sens de la vue, à la fois matériel et surtout spirituel, le regard de notre cœur, qui est mis en avant. De quoi s'agit-il? Il est inutile de vous dire que pour accéder un jour à la fin de notre vie, après plusieurs carêmes, après plusieurs tournois, pour accéder à la table du grand roi, pour pouvoir le regarder face à face dans tout son éclat, il faudra que notre regard soit adéquat, que notre regard soit donc parfaitement pur, parfaitement limpide. Songez à toutes ces fois où les prophètes, les patriarches dans l'Ancienne Alliance ou dans le Nouveau Testament, le récit de la Transfiguration, le récit de la conversion de saint Paul, songez où dans toutes ces occurrences, les hommes, les créatures se sont retrouvés face à face, non pas avec Dieu dans toute sa gloire, mais simplement avec ce que Dieu voulait bien laisser paraître, c'est-à-dire pas grand-chose. Eh bien, dans ces passages-là, pourtant, déjà, les hommes se mettaient face contre terre, incapables de regarder ne fût-ce que ce reflet de la gloire de Dieu. Imaginez donc quelle doit être la qualité du regard de celui qui entre dans la salle du banquet, qui s'assoit à côté du maître, du roi des rois, et qui discute avec lui en le contemplant les yeux dans les yeux, si j'ose dire. Le moyen de purifier notre regard, parce que, évidemment, c'est cela que nous recherchons tous, quel est-il? Eh bien, saint Paul y fait allusion en long, en large et en travers dans cette magnifique hymne de l'amour ou l'hymne de la charité, c'est la charité. La charité est ce feu qui brûle tout ce qui reçoit ce feu, qui brûle donc notre regard. Il s'agit en fait d'accéder par la charité au regard même de Dieu sur toute chose. Vous voyez qu'il nous reste du chemin à parcourir parce que j'imagine qu'aujourd'hui, déjà ce matin, vous avez eu l'occasion 3 ou 4 fois de regarder votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, vos amis, que sais-je, avec un regard pas exactement divin. Soit un regard captatif, soit un regard moqueur, soit un regard de détestation parfois. Voyez que ce carême n'est pas vain et qu'il est bon de s'atteler à cette tâche de purifier notre regard. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères, pour purifier notre regard, pour le laisser se faire pénétrer par la charité, que, j'ose le mot, de le crucifier, ce regard. Voilà ce que dit saint Paul en plusieurs endroits de ses épîtres. « Je crucifie ma chair ». Je crucifie ma chair, je réduis ma chair en esclavage, c'est-à-dire pas seulement son corps, mais tout ce qu'il est, donc son regard est physique et du cœur. Vous voyez, cette crucifixion du cœur, du regard, est symbolisée dans le baptême, au début de notre vie publique, si j'ose dire, de notre vie terrestre, de chrétien, et dans l'onction des malades à la fin de notre vie terrestre. Il n'est pas anodin que l'Église insiste sur la crucifixion de ce regard par le rite de la salive que le prêtre, le diacre, impose sur les yeux du baptisé et à la fin de notre vie, de notre parcours terrestre, par l'onction faite avec l'huile des infirmes qui crucifie à nouveau notre regard. Nous n'avons pas d'autre solution que de mortifier notre regard pour enfin le débarrasser de toutes ces scories, de toutes ces écailles qui doivent tomber de nos yeux, qui sont un regard qui contribue à donner à notre regard, eh bien, malheureusement, un caractère trop humain. Notre regard qui est concupiscent, comme nous le dit saint Jean, les trois concupiscences, nous en reparlerons au cours de ce carême, qui alourdit notre regard, qui fait que les paupières se ferment quant aux choses célestes et qu'elles sont tout ouïes, si j'ose dire, pour des paupières, c'est un peu paradoxal, que ces paupières se lèvent et que notre regard devient un regard de délectation à l'égard des seules réalités de ce monde. Nous avons à rectifier ce regard et nous devons accepter qu'au cours de ce tournoi des 40 jours, ce regard prenne des coups. Nous allons peut-être finir avec un seul œil, qu'importe. Ce qu'il faut, c'est que ce regard soit digne de Dieu. Voilà la simple chose que je voulais vous dire aujourd'hui. On dit que l'amour rend aveugle. Je suis persuadé de l'inverse, parce que je m'appuie sur l'Écriture. Au contraire, l'amour ne rend pas du tout aveugle. L'amour rend extra-lucide. C'est uniquement lorsque ce regard est pénétré de l'amour divin qu'il est capable de regarder toutes choses comme Dieu les regarde. Songez à ce que cela signifie. Cela signifie que nous devenons en quelque sorte comme des dieux. Nous avons le même regard que le Père éternel, que son Fils incarné et que le Saint-Esprit. Rien moins que cela, et nous pouvons l'avoir dès la fin de ce carême. Alors, mes chers amis, haut les cœurs, en lice, nous parlerons mercredi des tentations et des moyens à déployer très concrètement pour venir à bout de ces quelques tentations et enfin accéder à ce seul regard qui convienne à l'être humain, le regard divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.